Radio Spirale.
Cette entrée libre de jeu concerne la présence de la science et des technologies en théâtre et en danse. Pour cette table ronde, qui avait lieu le 30 mai 2012, Michel Vaïs avait réuni Marc Beaupré, Stéphane Gladzewski et Denise Guilbeault.
Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette 58e entrée libre de la revue Jeu. Les entrées libres sont des discussions publiques qui ont lieu en principe 2-3 fois par année sur des sujets que nous espérons brûlants et qui prêtent lieu à des débats. En fait, les entrées libres ont commencé, je regardais aujourd'hui dans mes archives, en 1984, en octobre 84. Et il y en a eu régulièrement à la revue. Alors, ces discussions publiques sont enregistrées, elles font l'objet d'un article dans la revue, parfois c'est même l'amorce d'un dossier. Elles sont aussi placées sur le site web de Jeux, dans l'espace théâtre, en collaboration avec Radio Spirale. Donc, vous pourrez écouter l'audio, l'enregistrement audio de tout ça. Alors, aujourd'hui, notre sujet, science et technologie servent-elles ou trahissent-elles le théâtre ? Je veux remercier le Festival Transamérique de nous accueillir et je veux aussi tout de suite remercier mes invités d'être venus. Donc, à ma gauche, Denise Guilbeault, qui est metteur en scène, qui est aussi directrice de la section française d'interprétation à l'École nationale de théâtre, c'est bien ça ?
Oui, de la section française.
La section française. À ma droite, Marc Beaupré, qui est metteur en scène, qui a fait l'École nationale, mais il me disait tout à l'heure, il l'a fait en interprétation juste avant que Denise Guilbeault n'en prenne la direction. Il est diplômé il y a 15 ans à peu près.
Hein, 99.
Ah bon, alors 13 ans.
Je suis plus vieux que j'en ai l'air.
Très bien. Et puis, à ma gauche, Stéphane Gladzewski, qui se définit, alors je lui avais demandé comment il voulait qu'on le désigne dans le communiqué, comme chorégraphe vidéaste. Et, entre autres, Stéphane Gladzewski signe ce spectacle, je ne sais pas si on peut parler de spectacle ou de performance, dans la mesure où ça dure 8 minutes. Alors, je viens le voir demain soir ici même, n'est-ce pas ? J'ai un billet pour demain soir à 21h. Donc, c'est une performance qui s'intitule comment ? Chaleur humaine. Hein ? Chaleur humaine, voilà. Alors, d'entrée de jeu, j'ai demandé à mes invités de bien vouloir... D'abord, répondre aux questions qui lui paraissent les plus importantes, ou en tout cas qui les allument le plus dans le communiqué que je leur avais remis. Ce communiqué, bon, je peux le résumer pour vous qui êtes dans la salle. Nous nous demandons si cette fascination qu'on constate de plus en plus pour la technologie dans les représentations théâtrales, si cette fascination constitue un reflet de ce qu'on voit aujourd'hui dans notre société, une société qui est de plus en plus envahie par la technologie, ou alors s'il s'agit d'une entrave au théâtre vivant. Le théâtre vivant est fait d'êtres humains qui rencontrent d'autres êtres humains. Alors, est-ce que cette présence importante de la technologie est un soutien qui sert la représentation théâtrale, ou au contraire, est-ce qu'il s'agit de quelque chose qui entrave, qui nuit, qui trahit même le théâtre ? J'ai voulu utiliser des mots forts, des mots violents, pour susciter justement les discussions. Alors, je vous lis un petit peu ce paragraphe, pour vous qui n'avez peut-être pas lu le communiqué. « Faut-il prendre des précautions lorsqu'on recourt à la technologie ?» pour que la représentation demeure théâtrale. Y a-t-il un risque que l'humain soit trop soutenu ou supplanté par des machines ou des gadgets ? Voilà longtemps que les écrans se multiplient sur la scène. Nous avions publié dans Jeux 44, en 1987, un dossier sur la scène peuplée d'écrans. Et ensuite, dans Jeux 108, on est revenu un peu sur la même idée avec le corps projeté, un dossier sur le corps projeté. Parfois, des micros et de savants dispositifs mécaniques, lourds et complexes, semblent prendre le dessus, mettant les comédiens dans un carcan métronomique et réduisant leur possibilité d'improviser. On assiste aussi à l'amplification discrète de la voix des acteurs. Il semble que dans beaucoup de théâtres maintenant, les voix des acteurs sont amplifiées. Alors, le public n'en est pas toujours conscient, mais semble-t-il, c'est le cas. La situation s'est-elle aggravée depuis un quart de siècle ? Le théâtre cherche-t-il à rivaliser avec le cinéma ou les arts multimédiatiques? Où se situe dès lors la liberté et la puissance du jeu humain? Est-il encore possible ou souhaitable aujourd'hui de présenter un spectacle dans le dénuement et la sobriété, sauf pour en faire un cas d'exception, comme par exemple l'Avare, qui a été présenté à la lueur des chandelles il y a 2 ans, ici, au cours de l'été. Alors donc, c'était vraiment un cas d'exception. Où est-ce que le spectateur du XXIe siècle a besoin de voir la scène envahie par toute la technologie de son époque? Alors, qui, parmi mes 3 invités, a envie de briser le miroir?
Je peux me lancer,
Stéphane.
Je vais peut-être être plus bref que le texte que je vois à ma droite.
J'ai l'air sérieux.
mais moi, comme ça, à brûle-pourpoint, je regarde ma démarche, je regarde autour de moi, puis je me dis, depuis peut-être les 15 dernières années, bon, il y a une plus grande accessibilité de la technologie. De tout le monde, il y a une plus grande intégration aussi dans nos modes de communication. Il y a une surpopulation d'écrans, je peux dire, un peu partout. Ça fait partie de notre mode de communication. Puis, parallèlement à ça, il y a tout un mouvement d'artistes interdisciplinaires, je dirais, qui a poussé avec ça, puis qui cherche à intégrer différents médias ensemble, puis pour ça, ils utilisent de la technologie, puis c'est un nouveau langage qu'ils essayent de créer. En tout cas, pour moi, c'est un petit peu comme ça que je l'approche, c'est d'essayer de m'exprimer sans hiérarchiser les médias, si je peux dire, puis de m'adresser au corps du spectateur par... Parce que pour moi, je pense que pour m'adresser au corps, je dois d'une part partir du corps. Donc pour moi, je pense que le corps va rester tout le temps le canal avec lequel la technologie va se greffer. Fait que pour moi, c'est un petit peu une façon que je l'approche. Tu sais, que je sais que le défi, dans mon cas, c'est que la technologie reste s'efface, un peu qu'elle reste au service du corps, au service de l'émerveillement, pour moi, d'une part. Et ou des fois, ça peut être pris totalement dans un autre contexte, que ça devienne plus un exercice de style. Puis c'est ça, vu qu'il y a, je dirais que les défis, ça amène plusieurs défis en même temps. La technologie devient de plus en plus accessible, les écrans deviennent de plus en plus accessibles. Puis donc, pour moi, la technologie doit servir un peu comme d'amplificateur du corps pour m'adresser au sens des spectateurs. En gros, ce serait ça pour l'instant.
Bien, merci. Ensuite...
Moi, j'ai tenté de faire l'exercice, Michel, et de répondre à chacune de vos questions.
Ouais.
Et je me suis rendu compte, au bout de l'exercice, que tenter d'y répondre, c'était d'essayer de donner une définition précise de ce qu'est le théâtre. Et j'ai vite abandonné. En 2012, en tout cas, j'ai abandonné parce que c'est devenu absolument hybride. Et quand on regarde l'histoire du théâtre, ça pourrait être lu comme une succession de préférences esthétiques et qui ont bougé d'année, de décennie à une autre décennie. Et tantôt, je trouvais bien intéressant que vous releviez le fait qu'il y a un numéro de la revue Jeux qui était apparu en 87. On se rend bien compte qu'on est 30 ans plus tard et on en parle encore. Ce qui veut donc dire que ce n'est pas encore tout à fait réglé, si je peux dire, et qu'il y a quelque chose dans ça qui est parfois un irritant et parfois, au contraire, quelque chose qui est absolument stimulant de voir qu'une technologie est... Par exemple, dans un des numéros, on parlait de La Tempête de Shakespeare, qui est un texte qui a été écrit, mais qui est un texte aussi fantastique, où Prospero imagine créer une tempête. Et là, tout à coup, la technologie pouvait illustrer, ou en tout cas émettre un commentaire à propos de tout ça. Alors, c'est clair que quand, par exemple, on a décidé, ou en tout cas que la pratique a fait en sorte qu'on a quitté les trois unités du théâtre classique de lieu, d'action et de temps. C'était une révolution, c'était, certains s'y sont perdus, puis en même temps ça a donné un théâtre qui tout à coup a rendu les choses comme plus claires, plus logiques et tout ça. Ce qui veut donc dire qu'au fil du temps, les choses se sont transformées. Là où, personnellement, parce que contrairement à Stéphane, j'ai une autre pratique et mon travail principal qui est de former des acteurs a d'autres préoccupations, il y a quelque chose dont on parle pas toujours quand il s'agit de nouvelles technologies au théâtre, c'est du texte. Et je pense encore, et ça créera peut-être un conflit dramatique entre nous, Marc et Stéphane, et là on pourra parler presque de théâtre, mais là où pour moi il y a peut-être une question à se poser, c'est quand il n'y a plus de texte, si on peut toujours appeler ça du théâtre. Alors je serais tentée de parler de texte et de spectacle, que ça prenne beaucoup d'importance, peu d'importance, mais quand il n'y a plus de parole, là pour moi, quand il n'y a plus de texte, avec la courbe dramatique et tout ça, je suis très à l'aise. Mais quand on ne dit plus et que c'est l'image qui prend le relais, alors on a affaire, pour moi, à d'autres choses. Et je n'ai jamais senti que le théâtre était coupé ou de la peinture, de la musique, de tout ça. Mais ça me semble important qu'il y ait un texte pour qu'on puisse parler de théâtre. Sinon, on peut parler de danse, on peut parler de performance. Quand on va au Guggenheim, on voit des installations, des performances. Alors, personnellement, si je voulais alimenter un peu la conversation, je pense que c'est quelque chose qui est assez important. Là où il y a des pertes, je ne sais pas si vous voulez, Michel, que j'étale.
Je voulais juste que vous abattiez vos couleurs, là, que vous dévoiliez vos couleurs pour commencer.
Ouais, on pourra revenir absolument, peut-être là-dessus. On parlera de l'acteur amplifié.
Oui, c'est ça.
Bien sûr,
et ce qu'il faudrait préciser, vous avez parlé de La Tempête, et il faudrait le dire peut-être pour ceux qui ne le savent pas, que vous avez monté La Tempête au Théâtre du Nouveau Monde avec 4D Art, et il y avait dans ce spectacle des images virtuelles, des images d'acteurs virtuels qui interagissaient avec les acteurs vivants sur la scène.
Oui, c'est ça.
C'est un peu ce qui m'avait fait penser, entre autres, à vous inviter. Et quant à vous, Stéphane, évidemment, il y a ce spectacle que vous présentez ici, sans parole, je pense. Hein? Donc, déjà, on a une première opposition. D'accord. Alors, Marc Beaupré, vous, ce qu'on avait vu de vous, il n'y a pas très longtemps, c'était au Théâtre de la Chapelle, Caligula Remix, que vous aviez mis en scène, et pièce dans laquelle, pièce de Camus, mais dans laquelle la pièce avait été complètement remixé, si je peux dire, refaite, avec des micros, et puis sur une table, enfin, il y avait tout un arsenal sonore qui était très présent pendant le spectacle. Alors, je vous laisse répondre aux questions qui vous paraissent les plus importantes dans ce communiqué.
J'aurais tendance à vouloir répondre de façon très simple et directe. Je dirais, je vais toujours, moi, personnellement, m'efforcer de subordonner tout ce qui est technique et tout ce qui est moyen, parce que pour moi, la technique représente un moyen, au récit, donc au fond, ou au merveilleux, comme disait Stéphane, en fait, à l'art. Mais comme disait très bien Denise, c'est que je trouve que se poser la question par rapport à ça vient qu'à se questionner sur l'objet dont on parle, bon, l'objet qu'on questionne. Et là, vous avez dit, M. Veillès, en entrée de jeu, la scène théâtrale de l'art vivant. Mais là, bon, évidemment, Denise a évoqué le fait qu'il y ait du texte ou pas de texte. Mais je pense qu'il faut toujours essayer de, dépendant de comment on va se placer pour définir l'objet qui est questionné, ben donc le théâtre, ben ça va changer notre façon de présenter la technologie. C'est-à-dire que si quelqu'un va... Ben, par exemple, vous avez présenté Stéphane et vous avez demandé à Stéphane de définir lui-même comment il se considérait. Mm-hmm. Et Stéphane est sorti avec chorégraphe, vidéaste. Mais à partir du moment où on commence à classer quelqu'un dans une certaine forme de démarche, ben après ça, les gens vont pouvoir aborder son œuvre avec cette idée-là en tête. Et ça va dépendre de comment lui, par rapport à l'idée que les gens ont, se font de son travail, il va pouvoir se positionner technologiquement. Mais évidemment, si vous avez parlé de Caligula Remix, moi, ce que je voulais faire, c'était juste essayer de représenter l'Empire d'une autre façon que dans un mode dramatique. C'est-à-dire que si j'avais voulu représenter l'Empire avec les moyens que j'avais, c'était ma deuxième mise en scène, j'aurais pas pu aller très très loin. Fait que je me suis dit, bon, on va créer, d'abord on va tomber dans le mode narratif. Donc évidemment, ça permet beaucoup plus de choses parce qu'on raconte. Mais ensuite, je me suis dit, ah, ça va être intéressant si tout d'un coup, même si on est juste 8 ou 9 acteurs, ce qui est très peu pour représenter un empire, bon, on va avoir un dispositif sur la scène qui est une métaphore de l'empire dont il est question dans le récit. C'est-à-dire qu'il y a un cœur qui est là, qui c'est 8 personnes, qui sont en train d'être dirigées par un chef de cœur qui représente Caligula. Donc Caligula est le chef de cœur et le cœur représente l'empire. Et cette métaphore vient qu'à illustrer tout ce qui se passe dans le récit qu'on vous raconte. Mais si j'avais dit, ou si les gens savaient que mon parcours était celui d'un électroacousticien, les gens seraient venus voir le spectacle et auraient dit « c'est pas bon ». Parce qu'évidemment, je n'ai pas poussé du tout dans ce sens-là. C'est parce que pour moi, c'est là que ça devient compliqué de répondre à la question. C'est-à-dire que si... Je pense que les gens qui vont aller voir le spectacle de Stéphane demain savent très bien que la technologie doit prendre une grande part dans le spectacle. Donc, évidemment, ils se prédisposent au niveau de leur réflexion là-dessus à recevoir, en tout cas, à bien recevoir la place que la technologie va prendre dans le spectacle. Maintenant, je reviendrai à mon commentaire de base, c'est-à-dire que si tout ça n'est pas au service du merveilleux ou de l'art ou de ce que Stéphane trouve beau, ou de ce que moi je trouve beau, de ce que Denise trouve beau, ben je pense que ça ne sera pas bon. Mais ça, c'est un avis bien personnel. Je pense que ça ne sera pas bon.
Moi, je pense qu'on est tous d'accord pour ça, que c'est à l'art qu'on dédie notre vie, en fait. Là où j'ai des préoccupations, c'est quand, par exemple, en fait, c'est un peu comme les langues. Je peux absolument pas avoir quoi que ce soit contre le fait que quelqu'un parle plusieurs langues. Mm-hmm. Là où je suis préoccupée, c'est quand, par exemple, parce qu'on connaît une autre langue, ça devient au détriment de celle qui est la nôtre. Mm-hmm. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, je vais parler de l'amplification des voix. L'amplification des voix, ça a un très bel avantage, c'est de s'assurer que tout le monde va entendre ce qui est dit. C'est un avantage extraordinaire. Mais à l'usage, et je peux vous le confirmer, ça fait que chez les acteurs, on est en train de perdre ce que j'appelle le souffle théâtral, qui n'est pas du tout le jeu télévisuel ou le jeu cinématographique, qui est fait pour l'intime et qui est fait pour une lentille qui va aller chercher un gros plan. Si on veut faire comprendre une émotion, quelque chose, il va y avoir un gros plan, une perche qui va s'avancer pour s'assurer que le spectateur ait exactement ce qu'on veut qu'il voit. Au théâtre, ce n'est pas du tout la même chose, parce que c'est un œil fixe, éloigné. Alors, et c'est le spectateur qui va un peu bouger la tête, pas tellement, mais c'est l'acteur qui, lui, va décider des plans et des perspectives. C'est très, très différent. Alors, ma préoccupation, dans le fond, c'est pas qu'il y ait de la technologie, c'est pas, par exemple, qu'il y ait une amplification à un certain moment pour renforcer un aspect dramatique d'une pièce de théâtre. C'est pas ça du tout mon problème. Je vis avec mon siècle, je suis très contente d'y être. Mais le fait qu'on perde un art de dire, parce que quand on est entendu et qu'on est amplifié, on ne sent pas nécessairement le besoin d'articuler, etc.
Parce que vous formez des acteurs.
Moi, je les forme. Ben, voilà. Oui.
Vous leur apprenez à projeter, à articuler, à être entendu, même du dernier rang, dans une salle de 1000 places.
Absolument.
Bon. Mais maintenant, ce n'est pas le cas. Ce que vous me dites, c'est que partout maintenant, il y a des micros. Dans les salles, plus de 500 places, il y a des micros partout.
Puis même en bas de ça.
Même en bas de 500
places. Oui, parce que y a une... j'ai failli dire le mot paresse, mais il y a... il y a quelque chose qui s'est installé où on dit, ah, si on ne t'entend pas, ce n'est pas grave, on va mettre un micro. Et à chaque fois, par exemple, que des metteurs...
Ils sont très discrets, ces micros, on ne les voit plus maintenant.
Ils sont dans la chevelure, ils sont cachés dans un vêtement et tout ça, oui. Mais c'est vrai qu'aussitôt qu'on a affaire à une plus grande salle, tout de suite, maintenant, le réflexe des metteurs en scène, c'est de dire, on va amplifier. Alors que c'est pas toujours rendre service à l'art théâtral, à un art d'interprétation. C'est un art, interpréter un texte et être capable de remplir une salle et d'aller rejoindre le spectateur au fond par sa vibration, m'excuse Michel, mais par une vibration humaine. Et je pense que les quatre ici, on a un intérêt très grand pour l'humain qui parle à d'autres humains. Mais quand on place toujours un micro, quelque chose comme ça, on perd quelque chose. Moi, je peux vous dire que je vous aime, mais ça n'aura pas la même signification que si je vous le dis comme ça.
Mais des fois, oui. Je pense, c'est là le défi, c'est quand c'est utilisé avec subtilité, puis qu'on s'en rend même pas compte. Oui. Tu sais, des choses, des fois, je vais voir où... C'est-tu amplifié? C'est-tu pas amplifié? Ça vient de où? C'est-tu sa voix? Il passe sa main sur la table, puis il y a un micro-contact qui me fait sentir quasiment la texture de la nappe. Pour moi, je pense que des fois, ça peut aller... ça peut nous permettre de rentrer dans une intimité ou dans la chaleur de la matière aussi.
Mais un bon acteur est capable
de
faire entrer...
Dans la matière, donc pour moi, il y a le corps, mais il y a aussi tout l'environnement autour. Ouais, ouais,
donc vous seriez pour l'amplification non seulement de la voix, mais aussi
Je pense que c'est
du contact avec les objets
et tout
ça. Il faut
le voir comme un tout. T'as l'acteur, mettons, t'as son environnement autour de lui, puis lui, il vit là-dedans, puis il habite ça. Il habite son corps, mais il habite aussi l'espace autour de lui, puis tout doit servir pour faire vivre cette pièce-là.
Mais c'est peut-être pour ça que j'ai une telle fixation par rapport à tout ça, parce qu'il y a un texte à livrer. Et la vibration d'une voix, des cordes vocales, d'un corps, vous le savez encore mieux que moi, c'est autre chose. Et quand il y a un texte à livrer, il y a tout à coup un art de dire, c'est-à-dire des techniques, Marc, tu y es passé, des vraies techniques qui peuvent s'attaquer à des textes. Et là, je ne vous parle pas nécessairement de Racine. Hein? Je suis de mon temps là aussi, je vous parle de Larry Tremblay, de Daniel Danish, des textes écrits, par exemple, pas des impressions, des textes écrits avec une dramaturgie, avec un code littéraire très fort.
Donc, quand vous parlez de texte, vous parlez aussi d'être humain, capable de le projeter jusqu'au public.
Oui, évidemment... Je sens le besoin de dire que je ne parle pas de déclamation, il y a longtemps qu'on n'est plus là-dedans, mais d'un texte, en effet, qui est assumé, en fait, je dirais. Et juste pour ajouter une petite chose, Stéphane, c'est que l'acteur finit par être, de savoir inconsciemment que même s'il ne parle pas fort, même s'il n'est pas audible, et on va amplifier, de toute façon. Et ça change le jeu beaucoup. Dans La Tempête, je me rappelle, il fallait que j'insiste auprès des acteurs qu'on allait filmer de garder un souffle théâtral, parce que c'est pas du tout la même chose. T'es un acteur, Marc, tu le sais. C'est pas du tout la même chose. Et pour être à raccord, si on veut, avec les acteurs réels, il fallait vraiment insister. C'est un autre jeu.
Ça doit changer le jeu complètement. Parce...
Oui, ça change.
Et moi, je veux dire... Ça va peut-être vous faire hérisser le poil de ce que je veux dire. Mais moi, je ne vais pas vraiment voir de théâtre parce que je me sens déconnecté, justement, parce que j'arrive pas à me connecter à la personne qui est devant moi, parce qu'il y a justement cette barrière de tout me semble mastiqué un peu souvent dans la façon de prononcer les trucs. Puis, contrairement au cinéma, où là, justement, tu peux rentrer dans quelque chose de vraiment plus près, puis moi, je trouve que ça me touche plus parce que je sens... Je change vraiment la personne qui respire, je la sens comme elle peut chuchoter, elle ne se force pas, dans le fond. Je trouve que la technologie, des fois, ça peut me rapprocher de cette personne-là, d'une certaine façon.
Mais j'ai
rien contre le théâtre non plus,
mais j'entends bien ça, mais je pense que ça a un rapport avec une perte dans ce que j'appelle l'art de dire, c'est-à-dire de livrer un texte où là, les gens, parce que j'en ai vu... Ouais. Mais c'est vrai que c'est rare, où tout à coup, le spectateur est en apnée et on entend la climatisation. On n'entend même pas le spectateur tellement il est happé, parce que ça restera toujours quelque chose d'extrêmement mystérieux, mais de bouleversant, d'un acteur qui raconte quelque chose, d'un humain qui raconte quelque chose à d'autres êtres humains.
Mais j'ai l'impression qu'on parle de choses différentes ici. On parle de théâtre ici, c'est le théâtre comme je le connais, comme on le connaît depuis longtemps. Mm-hmm. Et puis au debout de la table, on parle peut-être d'autres formes de spectacle. Mm-hmm. Vous avez dit tout à l'heure, Marc, qu'il est important de bien définir ce à quoi on s'attend, c'est-à-dire les attentes du public. Et quand on parlait de Stéphane Gladiszewski, il disait qu'il se définissait comme vidéaste, chorégraphe vidéaste, c'est ça. Donc, ça définit certaines attentes.
Mm-hmm. Okay. Ben oui.
Mais vous, est-ce que vous considérez que vous faites du théâtre, vous?
Oui, je pense que la raison pour laquelle Caligula peut avoir un certain succès, ou en tout cas rencontrer un certain succès critique...
Ça a eu un grand succès, non seulement ici, mais en Europe aussi, en tournée.
Mais je pense que ça vient du fait que les gens viennent voir... Albert Camus.
Oui.
Et ne viennent pas voir un exercice de, comme je le disais tantôt, un exercice d'électroacoustique. Parce que s'ils viennent voir un exercice d'électroacoustique, ils vont sortir déçus. Et s'ils viennent voir Camus, ils vont sortir surpris. Et là, par exemple, moi, le problème que j'ai par rapport à mon nouveau spectacle que je vais présenter demain, mais au AFTA, excusez-moi. le problème, c'est que là, je sais que les gens viennent avec, pour la plupart, les gens viennent avec le référent de Caligula. Donc, ce qui fait que moi, maintenant, je dois me positionner par rapport à ça. Et je sais qu'eux, ils ont l'image de Caligula dans la tête. Alors, je fais, bon, OK, comment ils vont prendre cette œuvre-là, qui est aussi une œuvre qui comporte beaucoup, beaucoup de paramètres technologiques, si ce n'est autant, même plus que Caligula. Donc,
comment est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots?
C'est que j'aborde Molière, Don Juan. Mais Don Juan et l'ensemble des personnages sur scène sont accompagnés d'une sténographe. Et le spectacle est retransmis en direct sur Twitter. Parce qu'évidemment, on est encore dans un mode narratif. Et évidemment, toute la volonté de libertinage, de conquête amoureuse, mais aussi de transgression, passe par les ellipses narratives que Don Juan a faites entre chacune de ses pauses, qui sont extrêmement rapides. Donc, l'action est accélérée d'une façon quasi exponentielle, parce qu'en 140 caractères, finalement, ça devient une conquête par tweet.
Vous réécrivez Molière en 144 caractères?
Non. Non, en fait, ce que j'aime faire, c'est de créer un cadre, justement, de surprise. C'est-à-dire que, bon, évidemment, on ne s'attend plus tout à fait à voir Molière parce qu'on a connu Caligula, j'imagine, en tout cas par rapport au spectacle que je monte. Mais d'arriver en disant, bon, vous attendez à voir la langue de Molière et on va avoir tout d'un coup quelque chose qui est beaucoup plus elliptique et beaucoup plus saccadé et beaucoup plus frénétique. Et ce cadre différent-là va être une espèce d'establishing shot qui va nous ramener à Molière de toute façon quand, tout d'un coup, les personnages originaux de la pièce, parce qu'en fait, dès le premier, on appelle ça un gazouillis en français, un post sur Twitter, donc dès le premier gazouillis, dont je trouve ça tellement laid, mais tellement laid.
Il faut le dire avec un clin d'œil dans la voix.
On essaie de le faire dire au personnage sur scène quand il s'adresse à la sténographe, parce que toute la volonté aussi de transformer la façon d'interpréter le texte. Donc, c'est tout le temps dans une forme de dictée. Donc, il y a l'idée de l'amour courtois ou des poètes romantiques qui sont tout le temps avec une secrétaire et qui dictent leur poème d'amour. Et donc, dès le premier gazouille, dès le premier pause, Don Juan s'arrache au texte de Molière et le commente. Et il parle du fait qu'il a assisté à la première de Don Juan. Donc, on est dans une transgression totale parce que les gens partant, ils s'arrachent au texte qu'il l'a vu naître et il commente puis il le rejette. Mais éventuellement, ce qui arrive, c'est que les personnages le rejoignent sur Twitter et se mettent à lui refaire les mêmes griefs qu'il lui faisait à l'origine dans la pièce, mais sur Twitter. Donc, ce qui fait qu'on retombe dans les traces de Molière, mais d'une façon, avec un nouveau cadre. Mais tout ça, pour moi, est possible si je sais que les gens qui viennent voir la pièce connaissent Molière. S'ils ne connaissent pas Molière, ça va être complètement inintéressant.
Mais ils vont quand même y reconnaître et apprécier Molière?
Apprécier, je ne sais pas.
Vous avez dit qu'il faut subordonner la technique au texte. Donc,
oui, c'est ça. Parce qu'en fait, tout ça vient du fait qu'en fait, pour moi, comme Caligula, Don Juan est un personnage qui me bouleverse parce qu'il est complexe. Pour moi, il représente tout ce que je vois de la nature humaine, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de soif, je pourrais dire, de liberté ou d'absolu extraordinaire. Et cette soif-là va créer énormément d'injustice. Alors, comme dans Caligula, c'est encore une fois la liberté d'un homme qui va rencontrer la volonté de justice des autres qui ont été floués par cette liberté-là, d'une certaine façon. Donc, pour moi, c'est ça qui est intéressant. Mais malheureusement, je pense que si je vais essayer de travailler un spectacle en basant uniquement... Non, c'est pas vrai. Je devrais pas dire ça. En fait, si j'essaie d'intéresser les gens... C'est un commentaire très grave que je vais faire sur ma société, mais je pense que si j'essaie d'intéresser les gens par rapport à ce thème-là que je viens d'évoquer, Don Juan, je pense que ça n'intéressera pas les gens. Par contre, la technologie, comme Twitter, est beaucoup plus intéressante au niveau d'un référent concret dans la tête des spectateurs pour l'intérêt que si je dis « je veux parler de l'humanité de Don Juan ».
Eh bien, je peux te le confirmer parce que là-dessus...
Vous confirmez quoi?
Je confirme que la technologie attire. Il faut absolument que je vous raconte que quand on a fait la tempête au TNM, les jeunes filles à la réception ont dit qu'elles n'avaient jamais vu ça depuis qu'elles y travaillaient, que pour la première fois, ce sont les hommes qui téléphonaient pour réserver leur billet à la tempête parce qu'ils voulaient savoir comment ça marche. Qu'habituellement, c'est toujours les femmes qui réservent.
Parce qu'il y avait des acteurs virtuels qui...
Exactement. Et c'était annoncé.
Interagissaient avec des acteurs humains.
Alors, on savait qu'il allait y avoir du virtuel et ça intéressait énormément les hommes. Et là, tout à coup, ils ont eu des spectateurs qui ne fréquentaient jamais le théâtre. Et pour plusieurs d'entre eux, c'était la première fois qu'ils mettaient les pieds dans un théâtre parce que tout à coup, ils se demandaient comment ça marche. Et ils se sont fait prendre parce qu'ils ont été intéressés. Mais il y avait ça. C'était clair. Et puis, pourquoi pas? J'étais bien content. On était bien content.
C'est drôle ce que tu dis aussi. Souvent, les gens ont l'impression qu'avec la technique, on va amener une nouvelle couche, qu'on va faire plonger les gens dans un autre univers. Puis ce qui se passe, c'est tout à fait le contraire. Les gens arrivent, hein, mais comment ça fonctionne? OK, il doit y avoir ça en arrière, le micro doit être caché là, tout ça, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Puis...
C'est l'effet un peu prestidigitation, l'effet un peu magique. Ouais,
ouais. D'ailleurs, plusieurs m'ont dit qu'ils ont mis 20 minutes, une demi-heure avant d'écouter le moindre mot. Pourtant, Denis Bernard faisait ce qu'il avait à faire et très bien. Mais ils ont mis tout un temps à dire comment ça se fait. Donc, l'autre est arrivé, mais il n'est jamais sorti. Et c'est une bonne question. Toutes les questions que vous nous posiez, à un moment donné, où l'intérêt se fixe. Et c'est pas nécessairement là où on aurait voulu qu'il
soit. Mais au-delà de cette fascination qui peut être très superficielle, est-ce qu'il y a quand même place pour l'interaction entre des êtres humains, des êtres vivants? Ou est-ce qu'ils sont complètement évacués parfois? Je ne parle pas nécessairement des trois spectacles, enfin de vos spectacles, mais vous avez dû en voir des spectacles baignant dans la technologie. Est-ce que parfois vous avez l'impression que l'être humain disparaît, que c'est plus du théâtre, autrement dit, parce qu'il n'y a plus d'êtres humains en interaction, et c'est un spectacle son et lumière, enfin je ne sais pas quoi, là, techno, performatif, enfin on peut trouver toutes sortes de qualificatifs. Ouais. Est-ce que ça vous arrive de voir ça?
Oui, moi ça m'est arrivé d'avoir la pupille très dilatée, mais de revenir à la maison, le cœur et l'esprit vides. C'est vrai, c'est arrivé souvent. Et on ne parle pas encore du propos. Moi, qu'il y a des corps qui bougent, qu'il y a des panneaux qui basculent, qu'on parle avec un autre pays pendant qu'on joue. Encore là, j'ai aucun problème. Mais de quoi il est question? De quoi est-ce qu'il est question? Dans mon cas, c'est plus là où je ressens parfois une souffrance. C'est, est-ce qu'il y a un propos, là? Est-ce qu'on parle de quelque chose? Ça, moi, j'ai plus de misère avec ça.
Si ça sert le propos, moi aussi, je suis vraiment d'accord avec ça. S'il y a une emphase qui est mise sur la technologie, qu'au moins, si je sens qu'il y a vraiment un focus là-dessus, bien, que je sente c'est quoi la recherche qu'il y a derrière ça. Moi, en tout cas, j'ai le goût de savoir. Là, c'est vraiment un gros élément technique, puis que ça prend toute la place, mais que ça parle plus ou moins. Mais au moins, je veux comprendre c'est quoi la recherche qu'il y a là-dedans. Puis sinon, si je ne comprends pas sa recherche à la personne, ben, au moins que ça serve le propos qui est amené dans la création.
Mais
puis c'est ça le défi aussi, je crois.
Marc?
Oui. C'est parce que... Je ne sais pas comment introduire la réflexion qui m'est venue, là, parce qu'il y a plusieurs choses qui m'ont fait penser à ça, mais c'est parce que il y a l'intention que alors, j'ai parlé beaucoup, vous avez parlé beaucoup de l'intention que vous avez par rapport à vos œuvres, par rapport à votre travail. Mais là où moi, je pense qu'il y a un gros problème, c'est que, par exemple, dans un cas comme dans l'autre, dans les deux derniers spectacles que j'ai montés, c'est que la technologie, pour moi, doit être subordonnée aux propos, au texte, ou à ce que je trouve de magnifique, ou merveilleux. Parce que je trouve que Stéphane, t'as dit ça, t'as exprimé ça de très belle façon en disant doit être subordonné à ce que tu trouves de merveilleux. Je trouve que c'est une très belle façon de résumer ça. Mais le problème, c'est que dans le processus de création...
Il a parlé d'émerveillement.
D'émerveillement. Voilà. Oui, excusez-moi. Merci. Merci de préciser. C'est juste que dans le processus de travail, de création du spectacle, quand il y a 8 micros sur une scène avec une console et il y a une espèce de machine qui s'appelle un repeater, ce qui faisait en sorte que toutes les voix qui étaient enregistrées en direct étaient immédiatement relancées dans l'espace. Donc, ce qui fait que de 8 personnes, on passait, pour Caligula Remix, on passait de 8 personnes à 16, à 24, à 32, ce qui faisait que maintenant, on avait une foule, alors que sur scène, on avait juste 8 personnes. Mais le fait de travailler, là je parle d'une petite compagnie où je tiens les cordons de la bourse, les ficelles.
Ça veut dire que tu n'as pas beaucoup d'argent, ça.
J'essaie d'imaginer.
Est-ce qu'on veut le taire?
C'est la technologie qui se venge.
Là. Peut-être.
Je vais prendre celui de Michel.
Voilà. Mais c'est ça, donc, ce que je veux dire, c'est que je suis le... J'ai eu ça ce mot-là, mais je suis le gestionnaire d'une petite compagnie qui a peu de moyens. Mais ça doit être encore pire quand, par exemple, on se place dans le cas du TNM ou d'une plus grosse institution, parce que tout d'un coup, si on sait que le spectacle, dans la tête des spectateurs, c'est un travail de... Comment on appelle ça, le travail qui a été fait avec Pilon-le-Lieu? C'est du travail de...
Virtuel.
Du virtuel, mais c'est de l'holographie.
Oui,
c'est ça, de l'holographie. Oui. Bien, évidemment, toute la machine institutionnelle derrière va vouloir que le spectateur qui vient voir ça soit ravi par cette proposition-là qui lui a été faite au préalable. Et ce qui fait que dans le processus de travail, il y a énormément d'énergie qui va être mis, énormément de moyens qui doivent être mis à cette fin-là. Ce qui fait que la technique risque de prendre le dessus, en tout cas au niveau du processus de création. Je ne sais pas si je suis clair dans ma façon d'exprimer
ouais,
ça. C'est juste que...
Même dans ce cas-ci, ça ne serait pas tout à fait vrai parce que, d'abord, c'est eux qui m'ont invité à me joindre à eux, puis ça, ils savent qui je suis, puis ce que je peux faire et tout ça. On voulait vraiment faire du théâtre, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Il y avait des acteurs sur scène. Là où tu as raison, par exemple, c'est la place que ça prend dans le processus de création, c'est-à-dire s'arrêter très souvent à cause de problèmes techniques. Et là, on faisait affaire avec 4DR qui ont beaucoup de millage et qui ont fait énormément de choses, puis qui ont été des leaders ici et ailleurs dans leur technologie. Mais c'est vrai que ça prend une place énorme. Et les acteurs, à un moment donné, en souffraient. Et là, la question s'est vraiment posée, qui est au service de qui, là? Des Denis Bernard, des Pierre Curzi, des Vincent Bilodeau, des...
Il y avait davantage d'acteurs virtuels que réels. Hein?
Oui, c'est vrai. C'est ça, oui, hein? Absolument. Oui. Alors, à un moment donné, ils se sentaient au service d'une machine. Hein? Puis on dit, la machine ne part pas ou la machine consent à repartir. C'était... Et d'ailleurs, tout de suite après la tempête, j'ai fait un spectacle à Okatsu avec des lumières, une petite bande sonore, une petite projection très simple et tout ça. Et j'avoue que et là, je vous parle peut-être de moi plus que de la technologie, mais tout à coup, j'ai fait, ah, bon, d'accord, on prend le temps qu'il faut pour ce qu'il faut. Mais dans mon cas, là, je ne dis pas que c'est une loi. Mais, et là, on avait un texte, on avait quelque chose à livrer. Le spectateur a réagi parce qu'il s'agissait de cancer et de condamnation à mort et tout ça. Et j'ai fait, ah, mon Dieu, mon bon vieux théâtre. Quelqu'un qui dit quelque chose, des gens qui vivent, qui font, ah, mon expérience humaine,
oui,
avec son expérience humaine.
Mais en même temps, la tempête, c'est ça aussi, tu sais.
C'est sûr.
C'est juste que, éventuellement, dans le processus...
C'est ça, c'est ça. C'est sûr.
Mais imagine si, bon, c'est probablement pas le cas qui est arrivé, mais imagine si à une semaine de la première, tu avais dit... Peut-être que si on avait des vrais acteurs, ou en tout cas, ou par exemple, ça ne marche pas. Par exemple, la proposition, mettons, si, dans Caligula, je vais parler de mon expérience à moi, là, dans Caligula, pendant longtemps, le concepteur sonore vous tenait à ce que ce soit des samplings. Donc, ce qui fait que le cœur...
Ça veut dire des samplings.
Donc, c'est préenregistré. Donc, tout ce qui aurait été, tout ce qui au final, si les gens veulent Caligula, tout ce qui était fait en direct, tout ce qui est enregistré en direct et échantillonné et relancé dans l'espace en boucle. Okay. En principe, ça devait être fait au niveau d'un préenregistrement, donc ce qu'on appelle un sampling qu'un régisseur envoie depuis la régie. Eh bien, ça a pris un courage. Je suis très fier de moi parce qu'à trois semaines, à un mois du spectacle, j'ai été obligé de dire au concepteur à qui j'avais une grande confiance parce que c'est un grand électroacousticien qui me disait « ça va être beaucoup mieux comme ça ». Je lui ai dit « oui, mais je n'aurai pas la performance théâtrale que je veux donner à mes acteurs. Je veux mettre mes acteurs en danger et là, je sais qu'ils ne le sauront pas. » Parce qu'ils savent très bien que peu importe ce qu'ils vont faire dans les micros, ce qui va revenir dans le système d'amplification, ça va être préenregistré. Donc, ils peuvent se tromper, ça va toujours être parfait de toute façon. Donc, en tout cas, bon, il y a eu un conflit artistique pour moi par rapport à ça, mais ça a été colossal dans le processus de création parce que toute la machine est là derrière pour supporter d'autres choses, pour supporter cette voie technique-là qui a été prise.
Et donc, vous avez voulu conserver du vivant, quand même.
Oui, c'est ça. Ouais, c'était
le
la volonté.
Le plus de vivant possible.
Mais essentiellement, mon propos, c'est de dire, j'ai été menacé par la machine derrière la technique qui voulait évacuer
le vivant encore un peu.
Qui dit la machine est en marche, elle peut difficilement s'arrêter. D'abord parce qu'il y a beaucoup de fonds qui ont été investis et parce que le temps manque si on voulait changer les choses.
Oui. Ouais. Mais alors, ça revient à ce que disait Stéphane tout à l'heure. La technologie est accessible aujourd'hui, elle existe, donc utilisons-la. Quoi.
Mais des fois aussi, juste pour finir ce qu'il dit, c'est que la technologie, ça devient un bourreau aussi. À un moment donné, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est pas juste comme, bon, OK, on répète, on fait la scène, OK, on va la refaire différemment, rajoute 2-3 virgules ici, non, OK, on va replacer les images, on va refaire le montage, on va remettre des cues de lumière à tel endroit, il y a un paquet de paramètres que ça impose, la technologie, je trouve, ça devient lourd, ça devient fatigant, ça devient, c'est comme 10 fois plus de temps, on s'en rend pas compte souvent, là, puis... Je veux dire, pour ma part, au début, le performeur était au service de l'image dans les premières créations que je faisais. Puis c'était, OK, t'es comme ça, après ça, tu tournes la main un quart de tour, pas plus à gauche, à droite. Puis là, t'as un gros spot de lumière dans le visage, tu vois rien. Il était paralysé complètement. Puis peu à peu, mais j'essaie d'utiliser la technologie justement pour redonner une liberté au performeur, tranquillement, essayer de trouver des techniques pour lui redonner de la liberté de mouvement puis dans l'espace. Puis après ça, de me dire, carrément, mais je vais travailler à partir de l'espace comme tel. Puis là, à partir de l'espace, à partir des outils que je crée. La technologie m'impose, donc je vais me créer un outil, je vais me créer un système de projection vidéo, une installation, ça va devenir mon outil. Puis après ça, il faut que je l'apprivoise. Ça impose un apprivoisement, ça impose aussi une dépendance aussi, des fois, face à certains techniciens aussi. Puis, à partir de là, il y a comme un dialogue qui s'opère.
Alors, contrairement aux deux autres participants, vous parlez de performeur. En fait, ce n'est pas du théâtre vraiment que vous faites. C'est une performance.
Je t'ai dit chorégraphe vidéaste, mais oui. C'est que je ne savais pas quoi dire, à vrai dire. Tu m'as appelé, je me disais, mais...
Non, parce que vous êtes quand même au programme du festival Trans-Amérique.
Oui, c'est ça. Cette création-là, c'est ça, ici. Okay. Puis l'autre création, mais c'est plus à cheval entre les arts visuels puis la performance. Puis, okay. Puis peut-être la prochaine, il y aura du texte, qui sait.
Je vous le souhaite.
Il y en a dans la dernière, mais c'est pré-enregistré.
Quand Marc parle de technologie et Stéphane en parle de quelque chose de très lourd et qui est un bourreau, c'est vrai et faut pas s'imaginer qu'il s'agit juste de haute technologie de virtuel qui est très complexe et tout ça. On parle seulement, par exemple, je pense à la conception d'éclairage, juste les cues d'éclairage sont maintenant entrées dans un ordinateur. Alors j'appelle ça une espèce de minuterie. Si bien que si un acteur est un peu plus lent dans son débit, que tout à coup, par exemple, il est pris par quelque chose qui va faire, qui va accélérer, qui va décider dans le jeu de réorienter ce qu'il est en train de faire, les possibilités, elles sont de moins en moins grandes. Donc, parce que c'est entré dans une machine et c'est un cue de 20 secondes.
Donc l'acteur est vraiment pris dans un carcan.
Oui, car c'est un mot qui est fort.
C'est-à-dire, il n'y a plus de technicien derrière qui peut contrôler l'éclairage.
En fait,
ces cas-là.
En fait, le régisseur va partir un cue, mais le cue a été créé sur 20 secondes. Alors, par exemple, un éclairage qui s'installe, pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers avec ce langage-là, un éclairage qui s'installe va commencer très peu éclairé et en 20 secondes va devenir à sa pleine capacité, par exemple. Mm-hmm. S'il a été enregistré en 20 secondes, pendant le spectacle, on n'intervient pas, on dit « Ah, il prend 30 secondes ». Et ce serait bien que le maximum de l'éclairage arrive au bout de 30 secondes, puisque l'acteur a travaillé un peu autrement. Mmh. Et ça, c'est des questions que je trouve personnellement préoccupantes. Et quand je parlais du souffle théâtral au tout début, c'est aussi de ça dont je parlais. Cette espèce de liberté créatrice qui arrive sur le moment. Sur le champ et qui n'a pas été prévu. Je ne vous parle pas de changement, mais je vous parle de changements homéopathiques, mais qui font parfois toute une différence dans un souffle pour terminer une scène, pour en entamer une
mais
autre.
Est-ce que c'est partout qu'on utilise ce genre de programme informatique pour l'éclairage, par exemple?
Bien, je pense que oui. Émilie serait mieux que moi parce qu'elle sort de l'école en production, mais je pense que tout entre maintenant dans des ordinateurs et que tout est informatisé. Hmm. N'est-ce pas?
Oui. Elle dit oui. Oui.
Et d'ailleurs, même, excusez-moi, mais j'ai eu une discussion justement avec la directrice du programme à l'école, Louise Roussel, qui était la directrice de production d'Ex Machina, alors qui connaît la machinerie, évidemment. avec Robert Lepage, et elle disait, elle était d'accord avec moi à dire que certains spectacles supporteraient mieux une régie manuelle, ouais. Une manipulation manuelle plutôt qu'électronique, parce que on serait plus collé à ce qui est en train de se passer sur scène. Mmh. Et ça, moi, personnellement, je le déplore, évidemment.
Est-ce que la technologie est plus acceptable au théâtre si elle est cachée, si le spectateur ne la voit pas?
Non. Je dirais que non. Non. Ça pose des défis de taille, par exemple, hein, quand il ne la voit pas. Je pense au virtuel, par exemple. Il faut savoir que ce que le spectateur voit, l'acteur réel ne le voit pas. Il joue avec rien, avec personne.
Mais par exemple, le fait de savoir que les voix sont amplifiées quand je vais au rideau vert, est-ce que ça dérange davantage de le savoir que de ne pas le savoir?
Mais je pense que des fois, c'est que ça donne, tu peux donner des codes déjà en partant. Exemple, on va travailler avec différents niveaux de voix. Ça peut être avec la voix ou ça peut être avec... tu sais, je peux parler de mon truc à moi, tu sais, comme c'était des imageries thermiques. T'sais. Au début, les gens ne comprenaient pas qu'il y avait une caméra thermique qui était utilisée. Puis après ça, je me suis dit, je vais peut-être déjà présenter une image au début qui va faire comprendre que, OK, on travaille avec de l'imagerie.
Vous pouvez expliquer en deux mots en quoi ça consiste, cette imagerie thermique?
Non, plus non? Tout le pas dire, tout parce dire, que les, mais... gens vont peut-être aller voir.
Pour donner une idée.
Mais oui,
dire...
c'est que donc, il y a... Le système de projection vidéo permet de projeter en temps réel sur un corps une peau de lumière qui rend visibles les différentes zones de température du corps qui sont visibles sous forme d'abstraction colorimétrique. Donc, la lumière devient change, se transforme en relation avec les changements thermiques du corps. Ça peut être sur un corps physique ou sur un objet. Puis, donc, en gros, c'est ça. Mais l'idée que j'avais, c'est ça. Donc, c'est peut-être, des fois, c'est de donner les codes au spectateur avant pour qu'il puisse jouer avec les codes de la technique qu'on utilise ou des objets technologiques qui sont là. Puis je pense aussi au show de Lino qui travaille avec beaucoup de technologie aussi, où elle a un corset qui réagit à sa respiration. Puis, déjà, elle nous donne, dès le début du show, « OK, j'ai un corset ici qui réagit à ma respiration, qui permet tel effet. » Là, on sait qu'après ça, sa respiration fait partie du spectacle. Tu sais, puis,
ouais. Le mieux est Pilon a déjà utilisé un costume qui réagissait
avec des senseurs,
à Anima, des senseurs dans Anima.
Hein? Oui. D'ailleurs, Michel Lemieux disait que c'était l'avantage. Ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il décidait à quel moment le son allait partir ou la lumière allait commencer à éclairer la scène, parce que tout était intégré à son costume, c'est un fait. Ouais. Mm-hmm. Mm-hmm.
Ouais. Est-ce que vous aviez trouvé ça théâtral, dérangeant, Anima?
Non, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé ça très intéressant. Comme tout ce dont il est question, je trouve ça très intéressant. Maintenant, pour moi, la langue et la parole, c'est encore la musique que j'aime encore le plus. Alors, une langue bien écrite, un propos, des dimensions humaines, philosophiques, amenées par un texte structuré, bien écrit, une plume, ça me porte.
Mais est-ce que c'est possible d'entendre cette langue et est-ce qu'on n'est pas distrait par ce genre de technologie? Voilà, je pense, le cœur de la question.
Je pense que oui.
C'est possible.
Je pense que oui. Oui. J'ai souvent dit que Racine se suffisait à lui-même. J'ai souvent dit que Racine pouvait être fait au lutrin et que ce serait un plaisir énorme. Mm-hmm. Peut-être est-ce que je dis ça maintenant parce qu'on ne l'entend plus et que de moins en moins d'acteurs sont capables de le faire. Parce que c'est un art de dire, pardonnez-moi de me répéter, mais c'est un art de dire qui se perd.
Fait que ça devient comme une béquille, dans le fond, la technologie, dans ce sens-là.
Dans mon cas, quand on forme les acteurs, en tout cas à l'École nationale, c'est encore ce qu'on fait, c'est qu'on a encore des cours de voix et de diction pour qu'il y ait une amplitude, une ampleur dans le corps, parce qu'on en parle beaucoup. C'est pas juste une question littéraire, là. C'est beaucoup dans le corps, dans la présence physique. mais est dans l'ampleur de la voix, c'est-à-dire une voix qui est capable de porter. Qu'on pense aux acteurs comme Guy Hoffman, Jean Duceppe, Guy Provost, c'est des gens qui ne parlaient pas fort, mais qui avaient une ampleur qui nous décoiffait. Et c'était un coffre, ils avaient un coffre. Mais notre culture télévisuelle, cinématographique, a fait en sorte qu'on se parle moins fort. On ne crie plus, d'ailleurs. Dans notre société, on ne crie plus. Et sans vouloir trop insister, en ce moment, je pense qu'une des choses qui fait qu'on est si impressionné par ce qui se passe dans notre société, c'est que tout à coup, on parle plus fort et on fait du bruit. Alors qu'habituellement, depuis plusieurs années, on ne fait pas de bruit. Quand on est bien élevé, on ne fait pas de bruit. Ben, c'est nouveau, hein? c'est pas de tous les temps qu'on cesse de crier. Avant, on avait le droit de crier. Moi, petite, j'avais le droit de crier dans des endroits spécifiques, mais j'avais le droit. On a de moins en moins le droit. Et quand on lève le ton, surtout chez les Québécois, on a un frisson. Alors, tout ça est lié. Je vous laisse la parole, là, mais ça fait aussi partie de mes préoccupations de voir que la parole est moins importante. Le Cirque du Soleil, par exemple, il y a un charabia, parfois, et il n'y a pas de parole. Puis je me dis, ah bon, on ne sent pas le besoin de dire. On ne sent pas le besoin. Et je sais bien qu'une image vaut 1000 mots, mais 1000 mots, ça en vaut beaucoup.
Marc voilà. Beaupré, est-ce que vous avez l'impression qu'elle fait référence à un théâtre passé? Ça n'existe plus?
Ben oui, oui, effectivement, tout à fait. J'essaie, de la façon que j'interprète ce que tu dis, Denis, c'est que je pense que les acteurs aujourd'hui ou la façon de faire du théâtre aujourd'hui ne comprend pas la volonté d'établir des codes clairs, comme la diction en est un, de savoir exactement qu'est-ce que ça veut dire faire une virgule dans un texte. Et je pense que ça passe beaucoup par le fait de l'amplifier. Il faut d'abord être capable de l'amplifier avant de pouvoir le diminuer.
Mais c'est des techniques.
C'est une connaissance de la langue. Là. On parle d'une connaissance. Quand je parle de virgule, on parle de connaître comment fonctionne la langue. Ce n'est pas une affaire de volume. C'est une affaire de connaissance de la structure d'une langue.
De connaître la syntaxe d'une phrase, mais qui passe essentiellement par une ponctuation.
C'est une culture qui se perd.
Mais je ne sais pas, parce que je suis pas dans les murs d'une école depuis les dernières années, mais par exemple, sur le spectacle que je suis en train de monter en ce moment, j'ai René Daniel Dubois qui fait partie du spectacle, et il a essayé de montrer aux autres acteurs, à un moment donné, puisqu'on fait Molière, comment découper un texte en exagérant la ponctuation. Eh bien, vous auriez dû voir ce que ça a donné, c'était extrêmement comique, parce qu'on a vu des acteurs qui voulaient performer alors qu'ils disaient « Non, vous ne comprenez pas que c'est juste une affaire de code. Un point, c'est fermer une phrase. Il faut qu'on ait l'impression que vous n'ayez plus rien à dire après ceci. C'est terminé. Votre pensée est terminée. Vous pouvez partir. » Mais les acteurs ne sont pas habitués à ça. Je ne sais pas, c'est peut-être un défaut de formation qu'ils ont eu. C'est peut-être eux qui ont de la difficulté avec les référents culturels qu'ils ont, je ne sais pas. Mais je crois que c'est à ça que je pense que Denise fait référence. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Il y a une volonté de créer des... La pensée, c'est culturel, puis ça se découpe en code. Et je pense que c'est peut-être aussi parce que, justement, il y a plus de... La technologie prend plus de place, l'image prend plus de place, la performance, je ne sais pas, mais oui, c'est peut-être aussi pour ça qu'on peut peut-être difficilement vendre un spectacle aujourd'hui en disant simplement « J'adore l'humanité du personnage central », mais que ça se vend mieux en disant « Il est sur Twitter », parce que c'est plus spectaculaire. Mais au niveau des thèmes, au niveau de ce qu'un texte signifie, ouais, non, je pense qu'effectivement, ça se perd un peu. C'est comme ça que je l'interprète.
Mais ce n'est pas nouveau tout ça, parce que de tout temps, le théâtre a intégré toutes les nouvelles technologies. Je veux dire, dès que le gaz est apparu, il est arrivé sur la scène. L'électricité est apparue, tout de suite on a remplacé le gaz par l'électricité.
Et ce n'est pas de ça qu'on se souvient. Ça va être peut-être, je ne sais pas, Georges Bernard, il arrive après le gaz, évidemment, mettons, Charles Dickens. On va se souvenir de Charles Dickens, mais on ne se souviendra pas de l'introduction du gaz dans les techniques théâtrales ou en 1850.
Non, mais c'est ce qui fascine, c'est ce qui attire les gens, comme vous disiez tout à l'heure. Mais... On parle de Twitter, les gens vont venir. Bon, on parle d'images virtuelles. Bon, les gens arrivent, les hommes réservent, ils vont venir au TNM. Alors, ça, ce n'est pas nouveau. Hein?
Non. Sauf que ce qu'il faut se souvenir, c'est que 100 ans plus tard, 50 ans plus tard, peu importe, ce qui reste, ce n'est pas la technique C'est l'art ou l'émerveillement qu'un auteur, qu'un artiste a su véhiculer. Mm. Et ça passe rarement par la technique. La technique va toujours être un moyen, de toute façon. Tu sais. Mm. Je pense. Mm. Mais ça, je pense qu'on dit ça depuis le début, là, de toute façon. Mm. Mais,
c'est drôle parce que, aussi, c'est tout le mode de communication. Depuis l'apparition d'Internet, tout le mode de communication qui a changé un peu. Tu sais, comme si on passe dans le temps. Au tout départ, les textes d'Homère étaient mémorisés puis transmis de génération en génération, comme ça, d'un à l'autre. Puis après ça, l'écriture est arrivée. Ça a permis de se libérer de ça. Puis là, maintenant, Internet arrive avec un nouveau mode de communication. C'est quoi? C'est des clics, c'est des images, c'est des sons, c'est des bandes sonores, tout ça. Les gens sont bombardés avec ça, puis ça influence profondément leur façon de communiquer. Tout le monde est sur leur iPhone à ça. Fait que maintenant, j'ai l'impression que c'est plus comme une espèce de communication par l'image, par l'immédiat, quelque chose de très instantané. Puis l'image, justement, est là. C'est peut-être une façon plus... Je trouve que c'est plus paresseux ou enfin, c'est efficace, une certaine efficacité. Puis c'est sûr que ça, des fois, ça laisse c'est au détriment de l'écriture ou du...
Qu'est-ce qui va encore permettre au théâtre de trouver sa place à l'époque d'Internet? Est-ce que c'est le texte et l'acteur vivant encore ou si c'est autre chose?
Moi, je pense que ça va rester. L'acteur vivant, ça va demeurer malgré les technologies. Parce que tant qu'on sera fait de chair, d'os et de sang, il y aura toujours ce rapport-là qu'on ne pourra jamais réduire à une machine. Et je pense que ni Marc ni Stéphane ne font ça de toute façon. Toi, tu travailles avec le corps, tu travailles aussi avec la parole. La chose qui peut... On ne fait plus le théâtre de la même façon, on ne l'écrit plus de toute façon de la même façon, c'est très fragmenté, mais les jeunes auteurs écrivent des scènes très courtes, le souffle n'est pas aussi long, les scènes étaient beaucoup plus longues avant, il y a toute une partie qui est narrative, le dialogue est fait d'une autre façon, c'est plus une phrase de deux lignes à laquelle on répond avec une phrase de deux lignes, on est en train de décrire ce qu'on est en train de faire. Les jeunes écritures, elles se sont développées, elles se sont adaptées, c'est des trucs fracturés, fragmentés, et ce qui est tout à fait pas en accord, mais en tout cas qui fait l'écho de notre société qui est par à coup, et la nervosité aussi, c'est plus nerveux, les textes sont plus nerveux, je trouve, mais on est plus nerveux, on est plus stressé, ça paraît même dans l'écriture. Mais je pense que les fils... qu'il soit de 10 pieds ou que ce soit les fils aillent d'un pays à un autre, il y a quelque chose qui va rester, je pense, entre quelqu'un qui raconte à quelqu'un d'autre. Le théâtre, c'est quelqu'un qui raconte à quelqu'un d'autre. Je pense que ça va être, d'après moi, ça va rester comme ça.
Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est de voir le théâtre essayer de plus en plus de repousser les frontières.
Oui.
Du théâtre.
Ça, il meurt puis il renaît. Je pense que le théâtre fait comme ça. Il meurt puis il renaît. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il s'éteint, pas du tout. Mais il vient sous une autre forme et tout ça. Mais je pense que depuis des siècles, on voit qu'il y a une chose qui demeure pareille. Mm-hmm. C'est une histoire qui est racontée, qui est jouée. Ouais.
S'il y a des gens qui veulent intervenir dans la salle par des commentaires ou des questions, ne vous en privez pas. Il y a un micro qui se promène.
On cherche le conflit.
Émilie Jobin.
Oui, j'ai une question pour Mme Guilbeault. C'est pour savoir le processus de répétition de La Tempête. Est-ce que ça s'est fait tous les comédiens ensemble à un moment donné ou par rapport aux hologrammes et tout? Comment ça s'est...
Il y a eu plusieurs heures de consacrées à des répétitions dans une forme absolument classique où les gens arrivent à la même heure et on fait une mise en place et tout ça.
Tout le monde, vous voulez dire à la fois les virtuels et les autres?
Absolument.
Tout le monde était là.
Tout le monde était réel pendant les répétitions parce que je tenais beaucoup à ce que cette fluidité-là soit très claire et que ce soit très organique et qu'il n'y ait pas des acteurs qui fassent comme du cinéma et d'autres qui fassent du théâtre. Alors ça a ajusté, je dirais, le niveau de jeu. Et une fois que ça a été fait, ça a été plusieurs dizaines d'heures, on a travaillé ensemble. Et une fois qu'on s'est mis d'accord sur ce qu'on allait faire, il y a toute une mise en scène assez complexe d'ailleurs, qui était des gens réels et des gens virtuels, parce que l'image arrive à un certain niveau, très physique, et l'acteur doit être à ce niveau-là pour que le regard soit dans le regard de l'autre. C'est assez complexe d'ailleurs. Et ça demande aux acteurs réels d'être très disponibles et ils se sont sentis des exécutants à un moment donné, où là on ne parlait plus de jeu, mais dit, tu regardes trop bas, tu regardes trop haut. Et ça, ça a pris un certain temps. Et après, donc, on a séparé les équipes, si je peux dire. Et quand, par exemple, il n'y avait pas d'interaction avec Prospero, disons, qui était toujours réel, là on était entre nous et là on filmait et on refilmait, comme au cinéma, avec des heures d'attente parce qu'une caméra faisait des caprices et tout ça. Il y a eu des effets spéciaux, Vincent Bilodeau, dont on plongeait la tête dans un bassin d'eau parce que Prospero le torturait et c'était notre choix. Alors, on filmait par en dessous le bassin d'eau qui était transparent, puis on plongeait la tête, puis on disait « Non, c'est pas bon, Vincent, on va recommencer. » Puis on faisait comme au cinéma, mais avec un tarif de théâtre, je tiens à le préciser. Donc, je salue encore la générosité des acteurs. Et... Oui, après qu'on ait filmé, qu'on ait eu l'impression d'avoir capté ce qu'il nous fallait, là, on a répété avec les acteurs réels et avec le virtuel. Et ça, c'est assez intéressant. C'est devenu tellement troublant, parfois, quand ça marche, là, et ça ne marche pas tous les soirs, mais quand ça marche, là, croyez-le ou non, un jour, je me suis levée pour aller donner des notes à Vincent Bilodeau, parce que je ne crie pas dans une salle de répétition, mais je me suis levée pour aller donner des notes à Vincent Bilodeau, il était virtuel. J'ai fait, ça y est, je suis trop fatiguée. Mais je m'étais prise moi-même à mon propre jeu. Et comme à la lumière de toute notre discussion, ça aussi, ça a été très difficile pour Denis Bernard ou Evelyne Gélina ou Paul Amarani pendant un temps et Manon Brunel qui est partie en tournée. Ça a été que Vincent Bilodeau ou Pierre Curzi jouaient toujours de la même façon. Mm-hmm. Mais eux, comme ils sont absolument organiques et qui sont mouvants parce qu'ils sont humains et qui respirent, là, tout à coup, ils avaient affaire à des gens qui ne respiraient plus, si je puis dire, qui avaient respiré une fois et ça avait été fixé. Et ça, c'était très particulier. Alors, le spectacle a bougé, parfois, et ça a été très important qu'on y retourne, nous, les metteurs en scène, très régulièrement, pour dire « Attention, attention ici, on n'est pas tout à fait au même niveau ». Oui, alors voilà, ça s'est passé comme ça. On l'a répété vraiment comme au théâtre, mais après, il a fallu faire ce qu'on avait à faire.
Merci.
Je vous en prie.
Je vais peut-être en profiter pour glisser moi-même une question au travers de tout ça. Donc, Christian Saint-Pierre, rédacteur en chef de la revue Jeu. Je me demandais si la facture technologique des spectacles, ça s'adresse à vous trois, en fait, et pas une carte blanche, une façon, en tout cas, d'entrer en contact avec l'international. On le sait, les démarches technologiques rayonnent bien à l'étranger. C'est le cas, je pense, de vos trois spectacles. Donc, y a-t-il un public qui s'intéresse particulièrement, est-ce que c'est un public de festival, peut-être aussi, à l'aspect technologique des spectacles? On pense aussi au travail de KDR, à celui de Robert Lepage, évidemment. Donc, est-ce que ça peut être une ouverture? Et moi, je pense qu'on dit souvent la technologie nous permet d'être en contact avec l'étranger. C'est ce que j'ai ressenti pendant Dieu est un DJ, qui était présenté à la SAT il y a nos deux semaines, et je me disais, ça y est, ce spectacle est à la fois ici et là-bas, donc au même moment, à des heures différentes, décalage horaire oblige, mais il y a une communication directe entre deux groupes de spectateurs, entre deux équipes de créateurs aussi, donc est-ce que ce n'est pas enfin quelque chose qui pourrait abolir les frontières?
Oui, pour préciser, dans Dieu est un DJ, il y avait quelqu'un ici et quelqu'un à Genève. Hein?
Exactement.
Oui.
Moi, je dirais oui et non. Ça dépend parce que, d'une part, bien, il y a des festivals qui sont créés plus, qui mettent l'emphase sur le côté technologique ou visuel ou virtuel, ou etc. Puis, d'un autre côté, tu as toute la lourdeur de faut que tu amènes ton équipement là-bas. Puis ça, ça veut dire que c'est des frais en plus. Le budget est complètement différent. Il faut que tu aies un espace qui va accueillir, ça impose certaines contraintes, c'est tout l'équipement que tu amènes. Fait que ça ne va pas nécessairement fitter dans n'importe quel espace. Fait que, oui, il y a peut-être plus, il y a des diffuseurs plus spécialisés pour ça, mais d'un autre côté, tu as beaucoup de contraintes budgétaires puis techniques qui s'associent à ça. Fait que des fois, c'est beaucoup plus de planification pour l'entrée en salle, des temps de montage beaucoup plus longs aussi. Fait que c'est à prendre en considération.
Mais dans votre cas, Marc, ça n'a pas été aussi lourd, je pense. C'est plutôt low-tech, votre spectacle.
Oui, ben en fait, c'est parce que tout se passe sur une espèce de grande table en trapèze, puis c'est ça qui a été problématique. Donc, ce n'est pas la technologie, mais ça a été problématique quand même, par exemple. Mais, ben oui, puis il y a un intérêt. Puis
Mais c'est un piège en même temps, on l'a déjà abordé, mais après ça, évidemment, les entrevues que j'ai données en France, ben ça porte presque exclusivement sur ça aussi. Alors que je fais, ouais, mais c'est ça, pour moi, c'est un peu un leurre. Je veux aborder Camus autrement. Moi, c'est surtout ça que je veux faire. C'est Camus qui m'importe, c'est pas la technologie. Mais de quoi on va parler? Ben, de la technologie. T'sais. Fait que je sais pas, peut-être que je vais finir par revenir à quelque chose d'extrêmement.
Mais je pense que si on n'avait pas reconnu Camus, ça aurait été moins intéressant. Vous auriez eu suscité moins d'intérêt.
Ah oui, c'est ça. Moi, de ma grande fierté, en fait, c'est dans, je pense, je me suis fait la note plusieurs fois pendant les répétitions. Efforce-toi, Marc, de te dire que tu n'as pas trahi Camus en voulant l'honorer. Parce que j'ai coupé de deux tiers du texte, peut-être. Puis j'ai rajouté beaucoup de trucs, tu sais. Fait que là, à un moment donné, tu fais, oh mon Dieu, tout ça est pour servir quand même l'honneur que je veux lui faire. Mais tu fais, moi, j'ai coupé deux tiers du texte en voulant l'honorer. Tu sais, qu'est-ce que c'est ça?
Oui. Oui, il faut prendre un micro parce qu'on enregistre, pour la postérité. Votre nom?
Pierre-Antoine Lafont-Simard. Moi qui voulais contrevenir à la technologie en n'étant pas amplifié pour faire honneur à Denise. Suite à une formation d'acteur, je me sens la trahir, mais je continuerai quand même. Je me demandais, Marc, plus précisément, et d'ailleurs la question rebondira sans doute sur vous trois, le succès de tes spectacles récents, donc, qui allient certes technologie, qui est le centre de la conversation d'aujourd'hui, mais d'abord et avant tout des auteurs, on peut le dire, phares, presque légendaires, donc par définition forts, dense, en opposition à ce que disait Denise tout à l'heure par rapport à une dramaturgie contemporaine qui, elle, est assurée, directe, plus fine peut-être, sans vouloir utiliser ce terme de façon péjorative, survivrait-elle l'une avec l'autre? C'est-à-dire, est-il possible de faire du Marc Beaupré techno avec un jeune auteur qui n'a pas la densité que peut avoir et Camus et Molière?
Ben, je te répondrai de façon beaucoup plus succincte que ta question. Je te dirais, moi, j'y crois pas du tout. Maintenant, je suis certain que l'humanité va réussir à créer quelque chose qui va pouvoir m'émerveiller aussi, mais moi, j'y crois pas. Je pense que la beauté de Caligula, c'est l'amalgame qui entre justement ce texte classique-là et cet auteur phare-là, qui d'ailleurs en France est peu monté parce que il semblerait que des dernières fois qu'il était monté ou depuis qu'il est monté, il s'est toujours fait de façon extrêmement rigide. Alors, ben, je pense que l'intérêt vient de l'amalgame entre la technologie et Camus, mais que si tout d'un coup on a une langue. En même temps, ça dépend aussi du propos. Je veux dire, c'est pas juste le fait qu'il soit moderne, c'est juste que je me vois pas faire un show live sur Twitter avec des personnages et une langue moderne parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de poésie. C'est ce qu'on retrouve à grandeur de page web si on ouvre Twitter ou si on ouvre Facebook. T'sais.
Est-ce que c'est Twitter qui va sauver Racine?
Qui quoi?
Qui va sauver Racine?
Qui va sauver Racine? J'en doute.
C'est ça, j'allais poser la question. Donc, est-ce que Camus, Molière et Shakespeare résistent à la technologie moderne? C'est une autre façon de poser la même question.
100%, oui.
Marc, j'ai pas vu ton spectacle, mais semble en avoir fait la preuve que ça... parce que c'est des écritures très fortes. Par contre, pour répondre à ta question, même si on a une technologie extrêmement de fine pointe, quand il n'y a pas de propos, et je pense qu'on a tous assisté à des spectacles très élaborés au niveau technologique, mais quand on sort et qu'on a retenu des flashs d'images, on sort et on fait « Ouais, c'était beau, mais encore ». Quand on ne peut pas s'accrocher, la pupille, tantôt je le disais, a beau être absolument dans une jouissance énorme, ça reste relativement superficiel. S'il n'y a pas quelque chose à quoi s'accrocher, un propos, une écriture, et tantôt j'ai parlé de Racine et tout ça parce que c'est reconnu que c'est une écriture très forte, mais j'insiste, je parle d'écritures qu'on a ici même, mais qui sont vraiment des drames. Une dramaturgie très, très ancrée, avec un style, une structure, avec une utilisation de la langue savante. Et quand on a ça, après, on peut se mettre à décoller. Mais si on est sur un fil, si on est sur une feuille comme ça, bien, vide ou blanche, ben, ça donne ça aussi comme spectacle, honnêtement. Alors, non, je suis convaincue que s'il n'y a pas un support, on en a vu des spectacles très élaborés, mais qui nous laissent parfait, oui. Puis on commence à en avoir vu beaucoup, hein.
Mais si je peux me permettre, tu disais en préambule très justement, je pense que cette question qui, depuis qu'elle est née en 87, apparemment, chez Jeux, en est une sémantique. C'est-à-dire le théâtre, s'il est oppressé par maintenant dans le festival de théâtre des Amériques, est devenu trans-Amérique même dans la définition du lieu qui nous accueille, il y a eu cette problématique-là. Est-ce que ce n'est pas parce que le théâtre est le terme le plus large par rapport à justement la performance ou l'art numérique qui tout à coup ont des frontières très fermes et définies, alors que le théâtre est un, sans vouloir le traiter de mot valise, a quand même des frontières extrêmement larges. Qu'est-ce que théâtre? Et est-ce qu'on en revient juste au texte, selon vous? Est-ce que c'est l'ultime frontière? Et par texte, j'englobe aussi propos, là.
Ouais. Ben, je serais portée à dire oui. Parce que je conviens qu'il y a une écriture scénique, évidemment, dans une chorégraphie, mais j'appellerais ça de la danse. Et ça, c'est pas moins, c'est pas plus, c'est un autre art. C'est un art. Mais en même temps, on est très frileux, hein, à définir puis à encadrer. Parce que c'est devenu très hybride, mais je pense que le théâtre a un texte. C'est, oui, je crois que ça. Voilà.
C'est sûr que les frontières se brouillent et que ouais. Jeu, on est une revue de théâtre, mais on s'est toujours intéressé, bien avant 87, aux arts du spectacle vivant dans leur ensemble, c'est-à-dire aussi bien la danse que, l'art lyrique, que même la performance, enfin. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a de grands artistes qui aiment flirter avec les frontières, repousser les frontières. Alors, ça peut être très intéressant, mais il reste que l'essentiel du théâtre, c'est quand même la présence d'êtres vivants, d'êtres humains, pas juste vivants, des êtres humains en présence les uns des autres et en représentation. Alors, parfois, on se demande si on ne tombe pas carrément en dehors du théâtre, si on ne tombe pas dans la performance, on se demande si on est encore dans le théâtre, enfin. Bien. Alors, est-ce que je peux vous demander quand même de conclure?
Ah, mon Dieu.
Quelques mots.
C'est difficile de faire ça. Ouais, je finirai par là où j'ai commencé, de toujours s'efforcer de suborner la technique au l'émerveillement, pourvu qu'il y ait un émerveillement, peu importe les moyens qui sont pris, c'est ce qui est important, je pense. Sinon, il n'y a pas d'œuvre artistique. En tout cas, l'art ne trouvera pas son spectateur.
Mais moi, c'est un peu ça. Dans le fond, c'est d'essayer, j'essaie d'exprimer, ben, enfin, je pense, ce qu'on retient, c'est ce qu'il y a du cœur, dans le fond, tu sais. Pas nécessairement ce qu'il y a de la technique, mais ce qu'il y a du cœur. Si ça prend de la technique pour l'exprimer, ben tant mieux, elle va être là. Elle va toujours être là aussi, d'une façon ou d'une autre.
Du cœur et de l'émerveillement.
Du cœur et de l'émerveillement.
Et de quoi vous combler?
Avec des mots. Des images et des mots.
Des mots pour le dire.
Des mots pour le dire. Aussi. Des mots aussi pour le dire. Oui, oui, oui.
Bon, oui, vous avez quelque chose à ajouter. Je pense qu'il y a le micro derrière vous, regardez. Parce que lui voudra peut-être vous répondre. Votre nom?
Michel Bélanger, je suis simple spectateur. Mais c'est parce que vous avez dit des mots pour le dire. Et c'est fou parce que je voulais le dire finalement, mais là je vais prendre le temps de le dire. Peut-être un encouragement pour Stéphane, parce que, tu sais, quand vous avez... Je suis cinéphile moi-même, non? Puis je comprends aussi que des fois, dans le jeu plus intériorisé au cinéma, ça facilite peut-être une identification et tout. Mais en même temps, et là, ça rejoint ce que Denise disait, au théâtre, la prestation, l'art de jouer, quand vous avez dit les mots pour le dire, c'est parce que j'ai vu le dernier show,
Divine,
et la finale avec Violette Chauveau, c'est la façon dont elle délivrait le texte, qu'elle le livrait. C'était tout sauf un jeu naturaliste, là, c'était très saccadé et tout, mais on entendait, c'était un crescendo, on entendait une mouche voler, c'était... Ça, c'est exactement le genre de moment de grâce qu'on a, puis moi, je trouve qu'on a juste au théâtre.
Oui, et vous parlez de conclure. En fait, je pense que toutes ces expériences-là sont valables. que ce soit le virtuel, que ce soit bon, toutes ces technologies-là sont valables. Mais il y a quelque chose que je pense que vous, vous partagez comme moi, cette espèce de vibration, hein, d'état de grâce dont vous parlez, puis dont on a été témoin pendant ce spectacle-là, Une vie à deux. Et tout à coup, il se passait quelque chose sur scène dans une plutôt grande simplicité, mais qui était absolument extrêmement éloquent.
Mais de toute façon, Edgar, tout peut coexister. Moi, mes premiers arts de la scène, moi, j'ai été, c'est dans les années 80 que j'ai été familiarisé, que j'ai après aimé et tout. Et à l'époque, je me rappelais, on parlait, est-ce que c'est de la danse, est-ce que c'est du théâtre, parce qu'il y avait Carbone 14 et tout ça. Edgar, je pense que tout peut coexister, mais en revenir des fois comme à l'époque, vous m'avez sensibilisé à un danger, par contre, l'histoire de la projection et tout, là, ça c'est vrai, que ça peut être un danger qu'on peut identifier.
Vous parlez de la projection d'image ou de voix?
Non, pour la voix.
Pour la voix,
là, la projection de la voix. Ça peut peut-être engendrer une certaine paresse et tout, une façon de faire chez l'acteur, qui a une formation qui se perdrait. Ça, je ne veux pas, c'est intéressant. Faut y prendre garde, j'imagine. Mais sinon, toutes ces différentes formes d'expression existent, côte à côte. Et... Mm-hmm. Merci.
Alors, on s'était penché en 1987 sur le corps projeté. En 2003, sur le corps projeté. Peut-être qu'il faudra se pencher sur la voix projetée la prochaine fois. Je vous remercie tous d'avoir participé à cette discussion. Et je voulais vous annoncer qu'aujourd'hui, seulement aujourd'hui, vous pouvez vous abonner à Jeux pour $25 pour une année. Alors, si vous allez à la table, il y a des coupons d'abonnement pour vous. Voilà. Alors, merci beaucoup.
Radio Spirale.